Partie 5. En quête de sens, religion, philosophie et société. Dans cette partie, élevons notre esprit. Tout d'abord par un tour d'horizon des religions, depuis les trois monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, jusqu'aux religions asiatiques et religions des forces naturelles. En règle avec Dieu, la visite se poursuit avec la philosophie, de ses origines grecques à nos jours, de Socrate à Jacques Derrida. Apaisés par les religions, devenues plus sages, nous nous tournerons ensuite vers les sciences humaines, celles qui cherchent à dire le plus exactement possible qui et ce que nous sommes. De la sociologie à l'histoire de l'archéologie, à la psychologie, les sociétés humaines sont passées au peigne fin sous le regard attentif des chercheurs, ce qui nous permettra d'en venir enfin à la nôtre pour en interroger les fondements, de la démocratie à l'exercice de la justice, sans oublier les grands débats qui l'agitent régulièrement. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'homme, de l'intimité de son inconscient à ses choix passionnés? Embarquez vite pour un voyage au cœur des mécanismes de l'individu et de la société tout entière. L'aventure humaine nous attend. Chapitre 17. Pour l'amour de Dieu, la religion. Dans ce chapitre, les religions monothéistes, les religions réformées, les religions asiatiques, les religions des forces naturelles. Le terme « religion » vient du latin « religio » qui, dans son sens premier, désignait un ensemble d'observances et de règles sans se référer explicitement à des divinités. Avant d'énoncer des vérités, de définir ce qu'est la connaissance, les religions, par le biais des sages ou des prophètes, ont tenté de préciser ce que devait être la conduite humaine. Elles ont proposé d'une façon simple de corriger une façon de vivre de manière à atteindre le bonheur, source nécessaire d'une entente universelle. Leur diversité a conduit à les diviser en religions monothéistes, c'est-à-dire des religions admettant un seul dieu, et polythéistes, qui sont celles qui admettent plusieurs dieux. Les trois grandes religions monothéistes. Le judaïsme constitue la première grande religion monothéiste. Ayant puisé en lui une partie de leur héritage, le christianisme et l'islam se sont ensuite mis en place en s'adaptant à leur époque et à leur environnement. Chacune de ces religions a ses livres sacrés, sa doctrine et ses prophètes. Le judaïsme. Fondé sur l'alliance entre Dieu, nommé Yahvé, et le peuple élu des Juifs, le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes. Après la destruction du temple de Salomon par Titus en 70 de notre ère, le judaïsme se répand sur le pourtour du bassin méditerranéen dans le cadre de la diaspora. Il affirme l'existence d'un Dieu unique et transcendant. L'histoire du judaïsme est étroitement liée à celle du peuple juif sur une terre, celle de Judée. Le berceau de cette civilisation est le croissant fertile, un territoire qui s'étend de la vallée du Nil à l'ouest à celle du Tigre et de l'Euphrate à l'est. Les textes sacrés du judaïsme. Commune au moins en partie aux juifs et aux chrétiens, la Bible du grec « ta biblia » est à l'origine une collection de livres qui sont rédigés sur une période de plus de 1000 ans, de l'époque du roi David à celle des apôtres. Celles-ci sont rassemblées en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot « testament » provient de la traduction latine « testamentum », qui est la traduction du grec « diatheke », signifiant « alliance ». C'est une allusion à la première alliance conclue entre Dieu et les Hébreux, ainsi qu'à la deuxième alliance conclue par Jésus avec ses disciples. La Bible hébraïque, l'Ancien Testament. L'origine de l'Ancien Testament remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Transmis d'abord oralement, il aurait été rédigé progressivement entre le XIe et le VIe siècle à partir de versions multiples pour prendre sa forme définitive au Ier siècle avant Jésus-Christ. Relatant l'histoire du peuple d'Israël avant la venue du Messie, il constitue la Bible hébraïque ou Tanakh, mot acrostiche formé à partir des initiales des trois mots Torah, qui signifie la loi, Nevim, qui signifie les prophètes, et Ketuvim, qui signifie les écrits. Ces trois ensembles regroupent 39 livres rédigés en hébreu, les autres écrits en grec ou en araméen, dit apocryphes, ont été rejetés, considérés comme non authentiques ou d'origine douteuse. La Torah. Pierre angulaire du judaïsme, la Torah regroupe les textes du Pentateuque relatifs aux origines du monde et du peuple élu. Ils sont au nombre de 5, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Comme son nom l'indique, elle enseigne la tradition et dirige les aspects pratiques de la vie quotidienne, le culte, les règles de conduite morale, les exemples à suivre ou à proscrire. Longtemps, la tradition juive a vu en Moïse son auteur. Toutefois, les cinq rouleaux qui la constituent ne forment pas une unité absolue. Les récits présentés sont variés et leur rassemblement en une collection unifiée ne s'est fait qu'après le retour de l'exil à Babylone au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voici en quoi il consiste. La Genèse relate le tout début de l'humanité avec la création du monde, Adam et Ève au jardin d'Éden, la chute, le déluge, la descendance de Noé, la tour de Babel, puis l'histoire des patriarches Abraham, Isaac, Jacob et ses 12 fils. L'Exode raconte la sortie du peuple de la terre d'Égypte sous la conduite de Moïse, puis l'alliance de Dieu avec son peuple sur le mont Sinaï. Les Nombres relatent le dénombrement du peuple juif durant son séjour dans le désert. Le Lévitique, ou Livre des Lévites, contient un grand nombre de prescriptions rituelles et morales. Le Deutéronome, ou Deuxième Loi, reproduit le discours de Moïse aux tribus d'Israël avant l'entrée en terre promise dans le pays de Canaan. Moïse y rappelle les principales prescriptions fixées pour vivre dans le respect de l'alliance avec Dieu. Les livres prophétiques. Les livres prophétiques, ou les Névim, qui signifient « hommes de la parole de Dieu », constituent le deuxième groupe du canon juif. La première section, dite des premiers prophètes, constitue un ensemble historique qui s'ouvre après la mort de Moïse et se termine avec la chute de Jérusalem en -586. La seconde section, des derniers prophètes, comprend les textes et discours prophétiques proprement dits. À l'intérieur de chaque section, les livres sont classés en fonction de leur longueur. Pour la première, on y trouve le livre de Josué, le livre des Juges, le premier livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, le premier livre des Rois et le deuxième livre des Rois. Pour la seconde, on y trouve Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Les autres écrits. Outre la loi et les livres prophétiques, la Bible hébraïque présente une troisième collection de livres assez hétéroclites, inclassables dans les deux précédentes catégories. Les autres écrits, ou Ketuvim, regroupent des livres historiques, des livres de sagesse et des écrits narratifs du lyrisme liturgique. On y trouve les psaumes, le livre de Job, les proverbes, le livre de Ruth, le Cantique des Cantiques, le Kohelet ou l'Ecclésiaste, les Lamentations, le livre d'Esther, Daniel, le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, ainsi que le premier et le second livre des Chroniques.
N'oubliez pas le Talmud à l'étude. Le nom Talmud vient d'une racine hébraïque qui signifie « étudier ». Le Talmud est reconnu comme un commentaire autorisé de la Torah par toutes les communautés juives. Il est fondé sur l'autorité de la parole de Dieu et est la forme écrite de la loi orale, reçue, selon la tradition, par Moïse en même temps que la loi écrite du Pentateuque. Il en existe deux versions. L'une originaire des milieux palestiniens, le Talmud de Jérusalem, l'autre originaire de Babylonie, le Talmud de Babylone. Ce texte est devenu la base de la jurisprudence à partir de laquelle ont été composés les codes des lois juives.
La doctrine du judaïsme. Elle peut se résumer en plusieurs points. Tout d'abord, Dieu est unique. Au départ, le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu limité à Israël. Il est un Dieu transcendant, celui de tout l'univers et de tous les humains, car il dépasse toute chose. L'univers entier lui est soumis. Ensuite, Dieu a créé l'être humain à son image. En revanche, c'est l'homme qui a fait entrer le mal dans le monde. Il doit lutter contre une tendance à faire le mal qui coexiste en lui avec la tendance à faire le bien. Enfin, Dieu a fait alliance avec l'homme afin qu'il ne se perde pas. Il lui a donné la Torah afin qu'il se perfectionne. L'ensemble des préceptes qui viennent de Dieu et ont été révélés à Moïse au mont Sinaï. Mais seul le peuple d'Israël a entendu sa voix. Israël a donc la mission, partout dans le monde, de témoigner de Dieu en mettant en pratique les règles universelles de la Torah. Il faut noter que le peuple d'Israël, dispersé, se verra un jour rassemblé en Terre Sainte, animé en outre d'une espérance fondamentale qui est l'avènement du règne messianique. Le messianisme, développé par les prophètes dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, consiste en la croyance en un personnage providentiel, le Messie, envoyé par Dieu pour instaurer son royaume sur la terre. Tous les courants du judaïsme ne partagent pas cette attente.
Un peu de technique. Nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu n'est jamais prononcé explicitement. Ainsi, Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et leur dire : « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui est. » Et il ajouta : « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Ceci explique pourquoi les Juifs ont recours au tétragramme YHWH, qui a pour l'étymologie incertaine « il est » ou « je suis celui qui suis », tétragramme prononcé Jéhovah ou encore Yahvé pour désigner leur Dieu. D'autres équivalents sont employés. Ainsi, la racine sémitique, elle, qui réapparaît dans le patronyme de nombreux personnages de la Bible, comme pour Daniel, Emmanuel et Élie, et sa forme plurielle, Elohim, pluriel de majesté, évoquant la toute-puissance de Dieu. Ce dernier est encore appelé « Dieu des armées », car les armées sont conçues comme les éléments de l'univers obéissant à Dieu, ou Shaddai, qui signifie le Maître et le Tout-Puissant.
Les prophètes du judaïsme. Le prophète est le sage qui va extraire une parole divine du néant. Il possède un cœur capable de discerner le bien du mal. En fait, il est l'interprète de Dieu, envoyé par lui pour mettre en garde les hommes ou leur révéler une vérité. Les prophètes hébreux parlent au nom de leur Dieu Yahvé. Selon la Bible, les premiers prophètes furent Abraham et Moïse. Abraham, le grand ancêtre. Vers 1760 avant Jésus-Christ, Abraham conduit la tribu nomade des Hébreux depuis le sud du Caucase jusqu'en Palestine. Yahvé conclut la première alliance avec lui, exigeant une croyance totale en lui, en contrepartie de quoi il offrira à sa descendance la domination sur la région qui s'étend depuis le fleuve Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. À la mort d'Abraham, Isaac devient le chef de la tribu et continue l'œuvre de son père. Dieu renouvelle avec lui son alliance par la circoncision, qui est un signe rituel de consécration à Dieu et de l'appartenance à la nation abrahamique.
N'oubliez pas le sacrifice du Fils. Pour assurer à Abraham une progéniture, sa femme Sarah, stérile, lui donne sa servante, Agar, comme concubine. Celle-ci accouche d'un fils, Ismaël, qui est considéré comme l'ancêtre mythique des Arabes. Abraham a alors 99 ans. Dieu lui promet qu'il aura un fils de Sarah, mais à la condition que tous ses descendants soient circoncis, en témoignage de l'alliance. Après la naissance d'Isaac, Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui rendre Isaac, c'est-à-dire de le sacrifier. Il accepte, mais alors qu'il s'apprête à le faire, un ange l'en empêche, et Dieu se contente de cet acte d'obéissance et de foi. Commun au judaïsme, au christianisme et à l'islam, cet épisode fait l'objet d'une interprétation différente dans les trois religions. Pour les juifs, c'est une épreuve divine. Pour les chrétiens, le sacrifice d'Isaac, remplacé au dernier instant par un agneau, annonce celui de Jésus, crucifié pour sauver l'humanité. Pour les musulmans, la victime n'est pas Isaac, mais Ismaël. Abraham est un modèle pour tout musulman, car il se soumet avant tout à la volonté de Dieu.
Moïse le libérateur. Moïse est également commun aux trois monothéismes. Il est appelé Moshe dans le judaïsme, Moussa dans l'islam et Moïse dans le christianisme. Dans l'Ancien Testament, il est présenté comme le chef qui a conduit les Israélites hors d'Égypte. Moïse a échappé de peu à l'ordre de Pharaon de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Placé dans une corbeille d'osier et confié aux eaux du fleuve, il est recueilli par la fille de Pharaon qui l'élève comme un fils et lui donne le nom de Moïse qui signifie « tiré des eaux ». Il reçoit l'éducation d'un véritable prince d'Égypte. Après avoir pris le parti d'un esclave et tué un chef de corvée égyptien, il s'enfuit dans le désert et devient berger dans le Sinaï, où Dieu lui apparaît pour la première fois et lui ordonne de libérer son peuple.
N'oubliez pas, le temple du roi Salomon. Le temple de Salomon, qui règne au Xe siècle avant Jésus-Christ, dédié à Yahvé, abritait, outre les tables de la loi, la manne et la verge d'Aaron, le frère de Moïse, et était recouvert d'or. Il fut construit dans la partie est de l'actuelle vieille ville de Jérusalem. Situé sur la partie la plus haute d'un rocher, qui accueille aujourd'hui la mosquée du Dôme du Rocher, il n'en reste après la destruction de Titus en 70 après Jésus-Christ que le soubassement, connu sous le nom de Mur des Lamentations. Salomon, grand bâtisseur, fait appel à des architectes phéniciens. À sa mort, le peuple de Jérusalem se révolte, ainsi que les tribus du nord du pays. Elles exigent que Roboam, fils et successeur de Salomon, allège leurs charges écrasantes. Comme il s'y refuse, elles se séparent du royaume de Juda et élisent pour roi Jéroboam de la tribu d'Éphraïm. Le royaume de David est ainsi devenu deux états différents. D'un côté Juda au sud, avec sa capitale Jérusalem, et de l'autre Israël au nord. S'ensuit alors une longue période de difficultés politiques et militaires, et le culte dû à Yahvé est délaissé au profit d'un retour aux idoles que sont le dieu Baal et la déesse Astarté. Les Israélites tombent sous domination étrangère, notamment assyrienne.
Vers 1250, les Hébreux quittent l'Égypte pour s'installer en Palestine où vivent des tribus qui leur sont apparentées. C'est l'Exode. Moïse est à la fois le héros et l'historien de cet épisode. Tenu à l'écart des villes commerciales et des plaines fertiles de la côte par les Cananéens, les habitants de Phénicie et de Palestine, les Israélites s'établissent dans les territoires qui bordent les montagnes. À l'ouest du Jourdain, le pays est réparti entre l'ensemble des tribus qui ont pris part à la conquête.
N'oubliez pas, quelle plaie! Après avoir réclamé en vain à Pharaon la libération des Hébreux, Moïse annonce les 10 plaies qui s'abattront bientôt sur l'Égypte. Eau changée en sang, grenouilles envahissant l'Égypte, grêle violente, invasion de moustiques, invasion de mouches venimeuses, peste du bétail, ulcères, sauterelles, ténèbres, mort des premiers-nés.
Isaïe, prophète de la foi. Les prophéties d'Isaïe se rapportent soit aux malheurs prochains qui vont accabler Jérusalem, soit à la venue du Messie, à sa naissance et à sa mort. Premier des grands prophètes, Isaïe prophétisa entre 746 et 701 avant Jésus-Christ. Il est appelé Ésaïe par les protestants. Tout est grand et majestueux dans ses écrits. Le mouvement suit, le mouvement et chaque verset s'étonne du verset qu'il a précédé, écrit Chateaubriand. Le livre d'Isaïe, daté du XIe siècle avant Jésus-Christ, est le seul des manuscrits de la Mer Morte, découvert à Qumran, à avoir été retrouvé. Jérémie. Les lamentations de Jérémie annoncent les grands désastres que sont la captivité et la destruction de Jérusalem. Le ton élégiaque domine ses écrits. Jérémie est connu pour dénoncer le formalisme du culte qui remplace la foi sincère et pour sa recommandation au peuple d'accepter la déportation à Babylone en 597 avant Jésus-Christ comme une épreuve voulue par Dieu. Il achève son existence en Égypte. Ézéchiel le voyant. Ézéchiel, qui signifie « qui voit tout » en hébreu, est amené en captivité à Babylone avec le roi Joachim en 597 avant Jésus-Christ. C'est pendant cette captivité, près du fleuve Kobar, que les cieux s'ouvrent pour lui. Les 48 chapitres dont se composent les visions d'Ézéchiel sont remplis d'apparitions étranges. Sa mission est de redonner du courage aux exilés en annonçant l'heure de la délivrance, le rétablissement de Jérusalem et la restauration du Temple. Daniel. Daniel fut conduit avec les captifs à Babylone alors qu'il était encore bien jeune. Il reçoit une brillante éducation dans le palais de Nabucodonosor. Ses écrits sont autant prophétiques qu'historiques et peuvent à ce titre servir de mémoire.
Le saviez-vous? Grand malheur et petit prophète. Les écrits des petits prophètes ne sont pas moins méritants, mais considérés comme moins importants. Bien que le même Dieu parle par leur bouche, ils annoncent essentiellement des malheurs aux nations. Amos, ou porteur de fardeau, le plus ancien, dénonce les excès des plus riches et annonce la fin d'Israël. Isaïe, ou salut de l'Éternel, dénonce les accapareurs et les pratiques religieuses qui masquent leurs activités scandaleuses. Joël, où l'Éternel est Dieu, prévoit une armée de sauterelles. Michée, ou qui est comme Dieu, un paysan venu de l'ouest d'Hébron, annonce la ruine de Jérusalem et la destruction du Temple. Habacuc, ou Amour, adresse des plaintes à Dieu au sujet de la corruption du peuple. Jonas, ou Colombe, célèbre pour son séjour dans le ventre d'une baleine, prédit la destruction de Ninive avant que Dieu ne change d'avis.